et avoir un bon repas et rentrer avec une filleule qui lui dînait il y a deux jours et qui ne trouve pas, au moins il a 35 ans, il est brillantissime, et il ne trouve pas de femme qui lui convienne, enfin, et il nous disait, moi j'ai besoin de bienveillance et j'ai besoin que quand je rentre, que je disais, mais est-ce que tu as des valeurs que tu as repérées fondamentales dans ta quête de trouver la femme de ta vie? Et il me disait, j'ai besoin d'une femme bienveillante et j'ai besoin d'une femme qui soit dans la douceur. Dans... Et c'est vrai que quand un homme rentre à la maison, il rentre, on va dire globalement, souvent, un peu après la part, pour ceux qui travaillent globalement, c'est souvent ça, surtout quand il y a des enfants. Souvent, la femme part plus tôt le matin, l'homme emmène les enfants à l'école et c'est la femme qui rentre un peu plus tôt le soir. Je ne sais pas si ça rejoint les expériences que vous avez, en tout cas, moi, c'est celle des enfants. C'est vrai que c'est important que l'homme sente qu'il est accueilli dans la douceur, que voilà, puisqu'il ferme ses tiroirs, il ouvre un autre tiroir, et bien le temps d'accueil, vous voyez, là j'ai un couple que j'avais samedi, ils n'ont plus de relations sexuelles, c'est un couple qui s'aime, très engagé dans l'église, mais elle a l'impression qu'il n'écoute jamais. On a fait quelques exercices, elle a quand même été étonnée que finalement il écoute. Mais n'empêche qu'ils se répondaient, ils avaient tous les deux l'art d'interrompre immédiatement la communication. L'art de l'interrompre immédiatement. Lui, j'aurais pu faire quelques exercices, lui il rentrait en disant « je suis fatigué » ou « elle ». Et l'autre répondait, lui répondait comme d'habitude, et elle répondait, va te prendre un médoc. Bon, ça permet pas tellement de dire pourquoi on est fatigué ni sa journée. Ou l'un disait à l'autre, oh, j'en ai vraiment marre de ça, et l'autre, le partenaire, le conjoint, disait, oh, oui, comme d'hab, et l'autre, puisque je proposais à chacun des deux de répondre si c'était le conjoint, disait, oh, de toute façon, c'est toujours de ma faute. Alors, évidemment, on va pas loin dans la communication. Parce que pour avoir une communication et un échange dans la parole qui favorise la sexuelle, la bonne formule, peut-être vous avez entendu parler des attitudes de Porter, ça vous dit quelque chose? Il y en a peut-être qui ont eu des stages professionnels là-dessus. Ça vous dit quelque chose ou ça vous dit rien? Bon. Alors, il y a quatre façons d'aborder la communication. Je vais tâcher de pas en dire la cinq et j'en ai oublié un jour. Il y a l'enquête. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui t'arrive? Bon. Alors l'autre va répondre, mais c'est pas vraiment une question ouverte. Il y a le jugement. Le jugement, c'est encore, de toute façon, c'est toujours pareil, de toute façon, ça sert à rien de, on fera pas avancer le chemin public avec toi, c'est pas possible. Il y a le soutien, c'est-à-dire, va te prendre un médicament. Il y aurait pu avoir un soutien un peu plus grand, c'est-à-dire, je vais te préparer quelque chose. Soutien, jugement, enquête. Oh, Philippe, aide-moi. Oui, mais c'est la bonne, donc je voudrais leur donner qu'à la fin. Il m'en manque un. Jugement, enquête, interprétation. Oh, c'est pas étonnant que tu sois fatigué avec les horaires que tu as ou avec le patron que tu as, voilà. Interprétation, on n'en sait rien. Il a peut-être eu un souci d'essence en voiture. Et puis, il y a l'attitude, qui est l'attitude qui va favoriser le dialogue. C'est ce qu'on appelle l'empathie, et c'est en fait une attitude qui va se traduire par la reformulation. Donc si vous voulez avoir des échanges de communication qui vous favorisent cette vie charnelle, la reformulation c'est l'idéal, c'est-à-dire « Ah, tu es fatigué » ou « Tu as l'impression que je ne te comprends pas » ou « En ce moment, tu ne supportes pas ça ». Et à ce moment-là, c'est des questions ouvertes, c'est-à-dire que l'autre peut dire « oui, j'ai eu telle ou telle chose » ou parce que les questions où l'autre peut dire que oui, que non, ou être, vous avez bien vu, là, les couples que je vous ai cités, c'est dans le jugement, le couple que je vous ai cité. Mais sachez que tout c'est, ça peut avoir un intérêt, l'enquête, parce que ça peut aider à résoudre une solution. Le jugement, ça n'en a pas beaucoup. Le soutien, ça peut avoir un intérêt. L'interprétation peut en avoir un si c'est une question ouverte. Et vous voyez de même les questions « tu », « toujours, encore, jamais », vous pouvez le supprimer de votre langage, « tu, encore, toujours, jamais ». « Tu penses qu'à ça, tu fais que ça », ça c'est une agression permanente. « Tu », et puis « tu, toujours, encore, jamais », à supprimer de votre langage. Et puis, il y a le fait d'avoir des questions ouvertes. si on veut aider à résoudre quelque chose qui est difficile dans le couple, c'est pas des questions qui, quoi, qu'est-ce, c'est des questions comment, avec des conditionnels ou des futurs. Comment ça serait pour toi si, comment tu verrais les choses, comment, même, ou comment s'est passée ta journée, c'est une attitude d'enquête, mais qui est bienveillante. Ou comment est-ce qu'on pourrait régler ça? Comment tu verrais ça? Et il y a un exercice qu'on propose, c'est un exercice qui consiste à, quand vous avez du mal à communiquer, l'un parle pendant 10 minutes, il parle, ça veut dire que l'autre se tait, il parle pendant 10 minutes, l'autre reformule, c'est-à-dire, si j'ai bien compris, voilà ce que tu me dis, je vais tout reformuler, mais... Tu es en train de me dire que la vie professionnelle est fatigante ou que avec ta famille tu as beaucoup de mal ou avec ta mère ça te blesse, que c'est douloureux, voilà. Il reformule. Et le premier qui a parlé valide ou non la reformulation en disant c'est ça que j'ai voulu dire ou c'est pas tout à fait ça que j'ai voulu dire. Et ensuite on inverse. Et ça c'est un exercice très intéressant à faire parce que ça permet de voir si on a vraiment écouté l'autre. Ça permet de voir à celui qui se sent incompris si finalement il n'est pas plus compris qu'il ne croit. Si la reformulation est bonne, c'est qu'il y a une vraie compréhension. Est-ce que j'ai bien compris que c'est ça la difficulté d'aujourd'hui que tu as? Donc les comment sont vraiment des débuts de phrase qui sont des questions ouvertes. Les questions fermées, elles n'appellent que le oui ou le non. Les questions ouvertes, elles ouvrent à tout ce que l'autre peut dire comme joie, comme douleur, comme voilà. Toutes ces émotions, elles peuvent arriver. Commencer pour toi quand? Et ça peut être dans l'autre sens. Vous voyez, s'il y a une difficulté au niveau sexuel, que l'autre pose un geste qui est gênant, eh ben, pour moi, c'est difficile. Comment est-ce qu'on pourrait faire autrement pour que toi, tu sois satisfait? Mais pour moi, c'est difficile. Comment on pourrait faire? Hein? Tu veux qu'on fasse sur le...
Donc là, à ce niveau-là, vous voyez, depuis le début, c'est vraiment de créer un contexte, une ambiance et un environnement à vous, qui est vraiment spécifique à vous. Donc on peut dire que là, vous commencez...
C'est retenu, je peux effacer.
Là, vous commencez et vous continuez à vous apprivoiser et donc à être comme dans un jardin. Un jardin clos qui est votre chez vous, dans laquelle vous avez votre maison. Vous avez le jardin dans lequel vous allez cultiver quelque chose et retirer les mauvaises herbes en dialoguant, en prenant du temps ensemble. Et vous allez continuer à construire ensemble en sachant vous écouter, dialoguer et effectivement permettre ces moments de communion intime. Ça veut dire que ce jardin, il est borné, c'est-à-dire n'importe qui...
C'est le temps, tu permets, je rajoute une précision. Les fiançailles, c'est pas un temps de... D'abord, vous l'expérimentez sûrement, c'est pas un temps facile, mais c'est un temps où vous n'êtes pas en stand-by, c'est un temps où vous êtes invité à être jardinier et à déjà avoir un projet. On sait que les couples qui s'engagent avec la décision de ne jamais se séparer ont 10 fois plus de chances de tenir que les couples qui se disent bah, « si ça va plus, on se sépare ». Et c'est vrai que ce jardin, c'est maintenant que vous choisissez les outils, les graines, et que vous commencez, donc laisse finir, continuer, mais c'est vraiment le temps privilégié des fiançailles pour commencer à jardiner et à définir le jardin que vous voulez. Les fleurs, les arbres, bon, je te laisse continuer, pardon.
Et ça veut dire à ce niveau-là, le projet, hein, Sophie parlait du projet, c'est-à-dire de dire, si on n'arrive pas à avoir d'enfants, qu'est-ce que l'on fait? Ou tu voudrais combien d'enfants? Veux-tu des enfants? Donc voilà, il y a un certain nombre de choses, et comment souhaites-tu vivre? Est-ce que c'est plutôt... dans tel contexte, cet contexte
à la ville, à la campagne, à la Réunion, à bon.
Voilà, donc y a vraiment un nombre de choses qui sont extrêmement importantes de partager pour être bien sûr qu'on est bien synchro dans la construction de ce projet, parce qu'on s'embarque pour quelques années. Hein. Donc c'est important.
C'est une décision que vous prenez de durer.
Donc, c'est une décision volontaire. Absolument.
Je crois que dans les choses aussi dont c'est très important de parler, c'est tout ce qui est l'éthique. C'est-à-dire d'envisager, si on n'arrive pas à avoir d'enfant, qu'est-ce qu'on fait? Si on nous annonce qu'on a un enfant handicapé, qu'est-ce qu'on fait? Parce que vous savez que quand on est dans un contexte émotionnel fort, là quelqu'un m'a encore parlé tout à l'heure, une de mes collègues qui m'a parlé d'une personne qu'elle a reçue, qui avait eu beaucoup de mal à avoir des enfants, beaucoup de fausses couches, elle attend un bébé, on lui dit il n'est pas viable, de toute façon il n'y a pas d'autre solution que d'avorter. Et elle avait avorté dans la semaine. Elle ne s'en remet pas, parce que l'avortement laisse des séquelles graves, et elle ne s'en remet pas parce qu'il y a d'autres couples qui ont eu la même annonce et qui ont décidé, bah, même s'il n'est pas viable, je mène à bout sa grossesse, et qui ont accepté bah, de perdre leur enfant à un jour, à deux jours et à trois jours. Ils le savaient, mais ils ont amené l'enfant à la vie qui est quand même la vie pour laquelle nous sommes faits. Vous avez parlé de la procréation. L'Église insiste sur le fait, à une époque, l'Église présentait la sexualité uniquement pour la procréation. Il y a eu une autre époque où l'Église parlait simplement du fait d'être en communion. Et aujourd'hui, l'Église inscrit vraiment dans tout ce qu'elle dit que le plaisir, vous parliez de l'adrénaline, c'est l'hormone du plaisir et du lien. C'est l'hormone qui vous lie en tant que fiancé, c'est l'hormone qui liera la maman à son bébé, hein, en particulier par l'allaitement. Donc c'est vrai, j'ai un pull d'appoint, si tu veux. Non, parce que comme il fait toujours un froid de gueux, moi j'arrive toujours avec des tonnes. Bon, aucun goût n'a froid. Parce que j'ai. Vous voyez, moi je fais l'inverse, je ne ferme pas les radiateurs, je m'affole quand ils ne sont pas mis. Mais lui, il n'aime pas le chauffage, je ne vous dis pas. À l'âge qu'on a encore. Il vient me baisser sous mes gaz parce qu'il trouve que c'est toujours trop chaud dans la cuisine ce que j'allume et il vient surveiller le niveau de température quand il dit que j'ai froid en me disant non, non, c'est un bon niveau, ça suffit.
C'est un peu excessif.
C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais en tout cas, il est très important de parler des sujets d'éthique. Est-ce qu'on envisage l'adoption? Est-ce qu'on envisage un enfant handicapé? Parce que si vous attendez un moment, ça peut arriver. Il y a un couple sur, il y a trois, que je vous dise pas de bêtises, trois couples sur dix auront des difficultés à concevoir. Donc est-ce qu'on envisage une fille ou est-ce qu'on n'est pas du tout d'accord pour une fille? Est-ce que c'est très important que vous échangiez sur ça avant d'être confronté à un contexte de pression? Parce qu'aujourd'hui, il y a une décision de vouloir supprimer la clause de conscience. Vous avez vu que les obstétriciens en ont ras-le-bol des IVG et envisagent de manifester. Donc, ils demandent à voir la ministre de la Santé. Parce que pour eux, ils ont conscience qu'ils font un travail de mort. Donc, c'est vrai que c'est très important que vous échangiez entre vous et que vous éclairiez vos consciences à la lumière de ce que dit l'Église, qui dit un des derniers livres écrits par le pape, c'est très intéressant, et pas écrit par le pape, écrit par Yves Semen. Je pense que c'est important que vous le lisiez, il a écrit deux livres, un qui s'appelle « La sexualité selon Jean-Paul II » et l'autre « Le mariage selon Jean-Paul II ». C'est extraordinaire sur la façon d'aborder le plaisir. Parce qu'on n'aura pas le temps d'aborder tant que ça, mais du coup, ceux qui parlaient du plaisir, je pense que c'est important que vous notiez ces deux livres. La sexualité selon Jean-Paul II et le mariage selon Jean-Paul II d'Yves Semen, S-E-M-E-N. Et c'est des livres qui se lisent par chapitre et qui sont très bons. Tu veux qu'on fasse le...
Non, dans le cadre de construire son projet ensemble, dans le cadre de donner une limite à son jardin, il y a aussi un obstacle que le couple peut rencontrer, c'est que dans le fait des copains de l'un et les copains de l'autre, quelquefois, quand on est en couple, il peut y avoir un peu une désynchronisation sur le fait de pas trop, comment on peut dire, matcher avec un tel, je trouve qu'il est un peu trash, il est un peu tout ce que l'on veut, et ça ne convient pas tellement à l'autre. Et donc il y a aussi là une synchronisation à avoir, c'est-à-dire d'un côté on est couple. D'un côté, on a aussi nos activités individuelles, mais il y a une synchronisation à avoir avec les amis de l'un et les amis de l'autre. pour être bien synchronisés en fait ensemble. Hein. Ça, c'est aussi quelque chose qui ne se fait pas comme ça d'un coup de baguette magique.
Hein. Alors, il y a aussi. Ça m'échappe ce que vous voulez dire. Oui, il y a une loi de rupture. Il y a une loi de rupture avec nos familles. Et il y a une loi de rupture avec des copains. Il y a des copains qui s'avèrent toxiques pour le couple que vous devenez. Et c'est très important à ce moment-là d'accepter cette rupture avec ces copains qui effectivement sont blessants pour l'autre, peuvent faire des actes de boise, peuvent, je pense à un couple où elle supportait plus un copain de son mari qui sous prétexte de dégustation passait son temps une ou deux fois par semaine à l'emmener boire. Hein, je pense à un autre jeune couple où le mari a un copain, c'est pareil, c'est la femme qui prend le volant retour parce que c'est pas une bouteille, c'est ils vont s'avaler 10 bouteilles 4 ou 5 heures d'affilée quoi, 4 ou à 6. Donc et c'est vrai qu'on a vu le couple en question, on a vu la descente, je peux vous dire. Donc, il y a des couples où il faut payer à vraiment savoir la loi de rupture avec vos parents, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé, on a beau être parents de vos parents, c'est très important que vous ne vous sentiez pas tenu. Un dimanche on va chez papa et maman et un dimanche on va chez beau papa et belle maman. Vous n'êtes pas tenu, la priorité c'est votre couple. Et même par rapport à vos enfants, la priorité doit rester votre couple. L'autre est vraiment celui, vous avez vocation à être au service de la sainteté de l'autre. Vous voyez que c'est pas rien, et même dans la vie charnelle, est-ce que j'ai conscience que mon mariage me met au service de la vocation de l'autre et de la sainteté de l'autre? Ça veut dire que tous les gestes que nous posons, ils doivent être tellement, ils devraient, bien sûr, comme pécheurs et que bon, et ils devraient être tellement pleins d'amour que l'autre, quand il rencontrera Dieu face à face, il le reconnaîtra grâce à la qualité d'amour que vous lui aurez portée. Parce qu'il reconnaîtra l'amour. Donc vous voyez que c'est vous rentrez dans quelque chose qui est vraiment une vocation magnifique. Magnifique, c'est vraiment une vocation magnifique d'être au service de la sainteté. Vous avez dit, il y a un truc que je me suis dit, on peut le prendre là. La connaissance de soi, je vais être deux à l'avoir dit. C'est vrai que la connaissance de soi, c'est on se rend compte qu'on va s'engueuler alors qu'on ne voulait pas le faire. On se rend compte que... on pose des actes qu'on ne voulait pas faire. Il peut arriver malheureusement que dans un couple il y ait une adultère. Je ne sais jamais si on dit un ou une adultère, je n'ai toujours pas regardé les dico. Mais c'est les avocats qui vont nous dire, on dit un ou une.
On dit un.
Ben voilà. Un adultère. Il peut arriver des coups de canif, il peut arriver des engueulots, il peut arriver des choses qu'on ne voulait pas faire à l'autre. Mais dans le couple, c'est très important d'être un pauvre avec un autre pauvre. C'est-à-dire que on se connaît par le retour que l'autre nous fait. Quand on voit que l'autre pleure à cause de choses qu'on a fait, ben on se rend compte qu'on est capable d'être blessant. Quand on se rend compte que l'autre a plus confiance en nous, on se rend compte qu'on est capable de trahison. Quand on se rend compte, et c'est vrai que c'est un outil de connaissance de soi, c'est incontestable. Et dans la sexualité, la façon dont on va aller vers l'autre, le câliner, l'embrasser, il est très important d'apprendre la maîtrise de soi, parce que le rythme n'est pas le même. Alors je ne vais pas rentrer dans les histoires de préliminaires, mais vous voyez bien que si vous prenez la liturgie de la messe, on n'est pas à l'évangile avant d'avoir commencé la démarche de pardon, l'action de grâce. Et ben c'est pareil dans les vies charnelles. Alors toujours notre ami qui avait fait à côté dans le théâtre d'à côté Mars et Vénus, il avait une façon de dire les choses un peu drôle, bon, mais qui est quand même amusant. Il disait l'amour, ça peut être le coup de lit, le fait maison ou le banquet. Bon, il n'y a pas besoin de dessin, vous comprenez ce que ça veut dire. C'est vrai que on va avoir des moments qui sont des moments fougueux, amoureux, rapides, voilà. Mais l'essentiel, c'est quand même d'essayer de faire, c'est quand même sympa, un banquet. Hein, donc d'essayer que, il ne faudrait pas que ça soit systématiquement un espèce de défoulement de pulsions et que ça le reste automatiquement. Le fait maison, c'est déjà plus sympa. Et le banquet, c'est magnifique. Et on parle d'ailleurs, vous remarquerez bibliquement, le nombre d'analogies avec la vie éternelle, c'est le banquet de noces. Vous voyez que la vie du Christ commence à Cana, et qu'à la fin, dans l'Apocalypse, on nous parle du banquet, de la robe des élus, de la robe blanche des élus, de ceux qui seront, c'est-à-dire de ceux qui se seront reconnus pauvres, qui auront vécu une vie sacramentelle. Je vous invite vraiment, pour grandir dans l'amour, à vivre les sacrements, à vivre la réconciliation, et puis, ainsi possible, participer à des vies de couple. C'est-à-dire à quel que soit le mouvement qui vous convient le mieux, mais un couple seul est un couple en perdition. C'est très important que vous soyez dans des mouvements, pas simplement pieux, pas simplement un mouvement de prière, mais un mouvement orienté sur la réflexion, sur le couple que vous formez.
En fait, ça vous permet d'échanger...
À travers ce que vous entendez des autres.
D'échanger couple à couple, et de partager... prendre des idées, de partager des points, enfin, on a tel problème actuellement, telle chose, et un autre couple peut
renvoyer quelque chose. On n'a jamais réalisé.
On n'a pas réalisé, ou il y a un an, on a été dans cette situation et on a fait comme ci ou comme ça. Donc si vous voulez, ça vous permet ce lieu d'échange vraiment sur des problématiques communes en fait. Hein. Ce que l'on peut voir dans l'évolution, dans l'espace-temps d'un couple, hein, il y a une période d'idéalisation du couple.
Tu veux faire le dessin de prendre le téléphérique que moi.
En fin de compte.
Peut-être que vous connaissez ce dessin parce qu'il a été fait par Denis Sonnet, qui était un conseiller conjugal.
Voilà, si c'est un téléphérique, on va dire qu'on a.
Mais nos petits bons hommes en bas d'abord. Moi, il paraît que je l'ai fait vraiment très mal.
Et donc, on part au départ, hein, tous les deux. On monte dans la cabine, et puis la cabine monte. C'est le moment de l'idéalisation, c'est-à-dire c'est le plus beau.
Oui, c'est super, c'est on va prendre les mêmes plats à table. Oh, ben si c'est ce que tu veux, mon chéri ou ma chérie, c'est super, tout ce qui te plaît, voilà. Donc la période d'idéalisation.
Et donc on monte.
Tous les couples vivent ça. On estime que sous l'influence de l'ocytocine, ça durerait 3 ans. Alors quand il y a les enfants qui arrivent, ça redonne un coup d'ocytocine. Mais bon, c'est ce qu'on dit aujourd'hui, on parle beaucoup de l'ocytocine, qui est l'hormone du bien.
Donc on monte petit à petit, ça dure un certain temps. Et puis au bout de d'un temps, en fait, et voilà, il y a toujours les...
Il ronfle, elle a un sale caractère, elle se fait notre mal, il n'est jamais là, je peux faire du monde ce que je dis, enfin, vous n'avez pas besoin de ça.
Voilà, et là, c'est donc la période, c'est un peu la descente aux enfers, en fait...
C'est la désidéalisation.
On est vraiment moins heureux, et voilà, tout ce qui peut se passer, là, c'est lourd.
On arrive à des couples qui divorcent en disant, mais on s'aime plus, parce qu'on n'a pas de sentiment amoureux, parce que c'est un moment de clash, un moment de tension, voilà, c'est pas l'amour fou du début, donc on fait descendre les
trois. Donc, là, à ce niveau-là, en fait, on arrive à un tel point que... On a trois solutions. C'est-à-dire, première solution, on s'est dit,
c'est au parking.
Là, il y a un parking.
On attend que ça passe.
Donc, vous avez un certain nombre de couples qui sont comme ça.
C'est-à-dire, ils vont s'emmerder toute leur vie ensemble.
On accepte.
Pardon de dire comme ça, mais...
Là,
voilà,
la deuxième solution, on dit, écoute, on se quitte. Hein, moi, je vais en chercher un autre, là.
Ou une autre. Et puis on va prendre un premier amour et prendre le téléphérique.
Et puis hop, donc il y en a qui...
Et ça recommencera.
Qui tourne comme ça.
Nous, on en connaît qui ont eu 3 mariages, pas de problème. Hein.
La troisième...
Vous en connaissez celle qui en a eu plus.
La troisième solution, c'est la solution du raid, c'est-à-dire,
C'est ce que propose le mariage chrétien.
Il n'est pas parfait, elle n'est pas parfaite. C'est vrai, ça je peux vous dire.
Il n'avait pas encore fait celle-là.
Et la période du raid, c'est de se dire
on s'encorde.
On s'encorde et on attaque ensemble. On
se remet devant. Vous savez ce que vous allez rédiger pour votre déclaration d'intention.
Voilà.
hein, avant votre mariage, à moins que vous l'ayez, vous l'avez déjà fait votre déclaration d'intention. C'est très important que vous réfléchissiez vraiment. C'est en fait, vous définissez le projet de votre couple. Qu'est-ce que je veux vivre dans l'amour? Qu'est-ce que je suis prêt à vivre? Qu'est-ce que je veux vivre avec Pierre, Paul, Jules? Et qu'est-ce que je veux vivre avec Julie? Et ça, c'est très important parce que ça vous met devant votre projet. Et c'est là que vous allez pouvoir aller vous raccorder. Nous, on a été stupéfaits. Il y a quelques années, on a été regarder notre déclaration d'intention. Et on a été bluffés de ce que c'était prophétique. C'est-à-dire que vraiment, on a vécu des choses. Bon, maintenant, moi, je suis très malade parce que j'ai un cancer grave. Philippe a été malade du cœur. On a vécu des épreuves quand même très colossales. Moi, depuis 8 ans, depuis un an. Mais c'est vrai que ce projet de couple a été pour nous tellement fondateur. Et on a vu que dès le départ de notre vie de couple, on avait cette espèce, parce qu'on avait beaucoup travaillé, cette espèce de prescience de ce à quoi Dieu nous appelait.